Fernando, Vincent, je dirais presque le faisceau des problèmes qui vont nous occuper toute cette semaine, et pratiquement dans toutes les dimensions à la fois. Je ne sais pas comment vous avez fait. Et j'ai noté toute une série, je ne sais pas comment dire très exactement en français, c'est pas des réminiscences, en tout cas des associations d'idées avec des sources traditionnelles, et où j'ai trouvé des convergences. Pas seulement dans ce que vous avez désigné très directement dans les catégories que vous avez évoquées, bien qu'elles aient une formulation de l'écologie psychanalytique, mais très souvent dans la forme dans laquelle vous les avez formulées. Je n'aurai jamais le temps, pour les quelques minutes qui me restent avant, je suis désolé, je dois vous quitter dans une demi-heure pour autre chose, en hébreu nous disons une autre mitzvah, mais vous êtes là jusqu'au moins 9h moins 10, 9h moins 5 avant la séance, à cause de laquelle nous ne sommes pas dans la grande salle ce soir, mais dans cette salle. Et donc, je ne pourrais pas tout citer. Je voudrais me demander quelque chose. D'abord, il est extrêmement fécond que des talmudistes, des midrashistes, si vous voulez, et des hommes de vos disciplines se rencontrent le plus souvent possible. Ne serait-ce que pour mettre en évidence, à travers ces convergences de langage, probablement quelque chose de beaucoup plus profond, des convergences d'intuition. Et peut-être nous arriverons un jour ensemble à retrouver un langage traditionnel pour dire des sujets de préoccupation scientifique des sciences humaines, apparemment contemporaines et prédatées de façon contemporaine, et qui me semblent rejoindre, et non pas de façon simplement par les formes du langage, je vais en donner des exemples, de ce qu'ont été les préoccupations des commentateurs bibliques déjà au Moyen-Âge. Je vous donne un exemple en Asie. Une des notions que vous avez évoquées qui m'a beaucoup frappé, c'est la parole en tant que source d'étonnement. Alors, très directement, deux formules. Que Dieu a créé le monde par sa parole. Et donc, c'est l'étonnement de la parole qui fait apparaître l'être, l'existence, vous avez dit. Mais ceci, il me semble devoir être creusé. Un autre exemple, c'est le commentaire que Rashi donne du mot de Tohu, qui est le premier mot de Tohu va Bohu, qu'on traduit par Tohu Bohu. Alors, il cite un midrash du Sefer HaBa'ir, mais il en donne une expression en traduction d'ancien français. Il dit étourdissement. Mais le sens de ce étourdissement de l'ancien français de Rashi, c'est étonnement. Dans le français actuel, puisqu'en hébreu, c'est tohé. Tohé, c'est ce qui est source d'étonnement. Tohu, ce qui fait que le premier homme découvrant le monde le découvre dans l'état de chaos, traduction classique, mais ça voudrait dire, à travers votre analyse, dans l'état d'étonnement du surgissement de la création. Ça, c'est une indication en passant. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est dès le début, le fait que vous avez très clairement indiqué la distinction entre la parole faussée et la parole de vérité. Vous avez tout de suite introduit les catégories de sincérité, je ne sais pas si vous avez dit authenticité, mais en tout cas, l'idée y était. Et alors, ça m'a renvoyé au schéma, que je me propose d'ailleurs dans la mise un peu plus en détail demain, puisqu'il fait partie du sujet de demain soir. Au schéma des niveaux de l'être, tels que, en particulier, Judas Lévy les a formulés par rapport à notre sujet, que je vais rappeler très, très brièvement. L'intitulé « Les niveaux de l'être », je l'emprunte à un titre d'un des livres de Mme Amadou-Banassi, les niveaux de l'être, oui. Et il s'agit de ceci. Pour la problématique traditionnelle des maîtres du Midrash, l'être se présente sous cinq formes d'expression. L'être inerte. Mais le mot de inerte traduit un mot hébreu, domaine, qui signifie silencieux. Ensuite, le végétal. Mais le végétal, la racine de végétal, signifie aussi en hébreu murmuré. Ensuite, le vivant, hay, c'est le troisième. Le quatrième, c'est hayam daber, le vivant parlant. Et là, il y a un point d'analyse important qui recoupe une de vos premières analyses. C'est que si on ne possède pas au fond la parole de vérité, la parole vraie, c'est parce qu'on ne veut pas reconnaître le sujet qui l'a parlé. Et la notion du sujet dans le vocabulaire biblique, c'est le vivant parlant. Donc, je vais le formuler de manière à nous brancher sur des débats contemporains par rapport à notre sujet. Au Moyen-Âge, les théologiens, pas seulement dans la tradition juive, ont hésité entre deux formules de la définition de la spécificité de l'homme. Soit la formule du vivant pensant, par exemple « animal raisonnable », entre guillemets, c'est traduit du latin de Descartes, et où vient la formule du vivant parlant. Finalement, la dominante dans la tradition vivante, en tout cas, c'est d'avoir préféré la deuxième formule, Hayam Daber, et non pas Hayam Askil. La formule de Hayam Askil, le vivant pensant, est aussi connue, elle nous renvoie tout de suite au monde cartésien. Mais c'est le Hayam Daber, le vivant parlant, que la formule rabbinique a retenu. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'homme en tant qu'être vivant? C'est qu'il est doué de la parole, et ça signifie pour notre sujet qu'il est un sujet. Je m'excuse de la répétition du mot sujet. Ça signifie pour notre débat qu'il est un sujet, un quelqu'un, et non pas simplement un impersonnel. Ça nous renvoie en tout cas au débat très, très important entre les structuralistes et les humanistes concernant le problème du sort du sujet par rapport aux structures du langage. Et derrière, il y a le problème de la responsabilité morale. Et donc, on voit bien que ces questions ont été, pas seulement intuitivement, mais ont été approfondies par les maîtres du Moyen-Âge dans leur langage propre, dans leur formulation propre, et que nous avons intérêt à recoder, au fond, ces sujets de réflexion. Alors, on arrive au cinquième niveau, c'est le prophète, c'est-à-dire le vivant parlant la parole de vérité. Et au fond, j'ai l'impression que vous avez introduit votre analyse par cette première donnée. Alors, ça m'a renvoyé à la formule que nous lisons avant de lire le texte du prophète chaque Shabbat. Vous savez que traditionnellement, on lisait le Pentateuque qui était divisé en une section qui date de semaine dans l'année, et chaque Shabbat, on lit donc une section du Pentateuque, de la loi de Moïse. Mais il y a eu des siècles où, surtout chez les Perses, lorsqu'il y a eu la domination de la religion parsi, le mosdéisme, on interdisait la lecture du livre de Moïse, c'était le dualisme contre le monothéisme. Je ne sais pas si simple que ça, mais presque. Et alors les rabbins ont institué la lecture de textes des prophètes, qu'on note que les parsis autorisaient, de textes de prophètes avec un sujet analogue à celui de la paracha de la semaine, de la section de la semaine. Et voici quelle est la formule qui introduit la lecture des prophètes chaque Shabbat. Asher Bahar Bimbin Torim, on remercie Dieu qui a choisi, préféré, ça veut dire, des prophètes bons, Minvim Torim, comme s'il y avait des prophètes mauvais. Donc on apprend qu'il y a des prophètes mauvais. Et à agréer leurs paroles, Hanemarim Behemet, dites en vérité. Ça veut dire qu'il y a donc des prophètes capables de la fonction de la parole, capables de parler de la vérité, mais il y a des prophètes de vérité capables non seulement de parler de la vérité, mais de dire la vérité, dans le sens direct. Il me semble que cela recode très exactement votre propos, et je voulais le signaler. Et alors, je conclurai cette brève introduction à notre débat par quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Vous avez fait assez rapidement allusion au processus du refoulement et à la nécessité d'être libéré de ce refoulement. J'emploie les termes traduits de l'hébreu. Je ne dirai pas comment dire un psychanalyste. Libéré, dépouillé.
Enfébung. Le mot le dépasser.
Oui. Eh bien, en hébreu, c'est l'igaël, geoula. Vraiment d'être délivré. De ce que nous appelons donc en français le refoulement. Or, c'est cette fameuse phrase de la sagesse rabbinique, Haomer Dabar Beshem Omro, Meri Geoula Laola. C'est une phrase sur laquelle on pourrait étudier pendant des heures. Mais qui signifie littéralement, celui qui cite une parole dite au nom de celui qui l'a dite, fait venir la délivrance, la Geoula, au monde. Et vous l'avez éclairé supplémentairement ce soir. Par le fait que ne pas comprendre quelque chose, ça renvoie au fait qu'on a oublié qui l'a dit. Et donc de retrouver qui l'a dit délivre le message, comme on dit délivrer un message, délivre le sens du message. Alors je ne sais pas, monsieur Veil, si c'est ataviquement que vous avez parlé comme un rabbin, ou si c'est que déjà les rabbins parlaient comme les psychanalystes. Donc il y a une convergence que je voulais mettre en évidence.
La parole est à la salle si vous avez des questions. Merci, France, s'il vous plaît.
Je voulais faire deux ou trois remarques qui m'ont particulièrement intéressé et frappé dans cette discussion à l'intérieur du Veil. En particulier lorsque vous avez expliqué par quel processus, lorsque l'autre devient une parole, il y a un prix à payer. Vous avez appelé, n'est-ce pas, la castration symbolique. ou est-ce que tu es en nous une absence? À quel point, là aussi, cela fait vibrer chez le juif parisien quelque chose de tout à fait familier et même de fondamental, puisque à la base même de l'existence d'un autre que Dieu, de la création, il y a ce que l'on appelle, en schématisant l'extrême, le tzimtzum, c'est-à-dire que Dieu renonce à une partie de lui-même pour donner place à autrui. Et que sur le plan biblique, la définition de la modestie, c'est celle de Moïse, on se dit que Moïse, Moshe, Anamor, était très modeste, comme l'était le commentateur, ça veut dire qu'il faisait abstraction de lui-même pour être capable, il a été le seul capable de recevoir la Torah, c'est-à-dire la parole divine. De la même façon que notre maître Jacob Gordin enseignait que pour entendre la parole haute de la révélation sinaïtique, il faut faire en soi le désert de sa propre parole. En hébreu, parole c'est davar et désert c'est nidbar, le même racine. Et donc il y a là quelque chose de très profondément à la base même de toute la tradition juive. La deuxième chose, c'est que la parole va même très loin dans la tradition juive, puisque nous avons dans la disposition des 10 commandements une présentation assez originale qui est celle d'Abraham Bar Chaya, qui a vécu environ entre 1070 et 1136, et qui, dans le chapitre 4 du Hegyon Nefesh HaTshuva, un de ses ouvrages, divise les 10 commandements en 3 parties. On voit une disant qu'il y a la relation entre l'homme et Dieu, entre l'homme et la famille, et entre l'homme et autrui. Donc, est également une deuxième façon de considérer les commandements, c'est que la base de la mitzvah, de l'exécution du commandement, peut être ou la pensée, ou la parole, ou l'acte. Et il distingue ainsi le premier commandement qui met à part tous les autres émanant du premier commandement. Et alors, nous avons le deuxième commandement, pas avoir d'autre Dieu. C'est entre les 3 premiers commandements, c'est entre l'homme et Dieu. Donc, c'est par la pensée. Ne pas élever le nom de Dieu en vain, le troisième, c'est au niveau de la parole. Et au niveau de l'action, le quatrième commandement, c'est de tenir le Shabbat. Mais lorsque nous arrivons au rapport entre l'homme et la famille, nous tombons sur quelque chose qui apparut souvent, et m'est apparu il y a 20 ans comme incompréhensible, à savoir que le cinquième commandement entre l'homme et sa famille, au niveau de la pensée, de nouveau, n'est-ce pas, c'est honore ton père et ta mère, ça on peut le comprendre, mais le sixième commandement, tu ne tueras pas, est au niveau de la parole. Effectivement, la tradition juive dit que quelqu'un qui offense son prochain, eh bien, c'est comme s'il le faisait, si quelqu'un fait virer la face de l'autre au blanc, c'est comme s'il le tuait. Et nous savons d'ailleurs, malheureusement, que la parole a pu tuer, vous le rappeliez, à propos des événements il y a 40 ans. Donc il y a là, je crois, quelque chose de capital qui est l'importance extraordinaire de la parole. Je voulais, par contre, vous poser 2 questions. La première, c'est est-ce que l'étonnement est effectivement suffisant pour éviter l'erreur de celui qui sait tout? Vous avez raconté donc une histoire de la grande Deutung de Freud. Je vais vous raconter très brièvement une autre histoire juive qui m'a été racontée, celle-là par mon père. C'est un juif de la campagne, à l'époque où il y avait dans les pays de l'Est, et une campagne et des juifs, qui pour la première fois de sa vie va en ville, il va au théâtre. Et il revient dans sa campagne. Et il dit, c'est extraordinaire, je vais au théâtre. Et alors, raconte, c'était comment? Il dit, aucun intérêt. Pourquoi? Quand il veut, elle ne veut pas. Quand il veut, elle ne veut pas. Quand elle veut, il ne veut pas. Et quand enfin tous deux veulent, il y a un rideau qui tombe et on ne voit rien. Donc, ma question, est-ce que vraiment l'étonnement est suffisant? La deuxième question que je voulais vous poser, c'est vous avez dit que la musique, dès qu'elle est entendue, l'exécution ne peut pas rendre l'erreur possible. Et vous avez cité l'exemple de la danse. Je vais vous demander, peut-être que j'ai mal compris, mais il me semble que parfois, je ne sais pas danser, mais pas du tout, que parfois, quand on entend une musique, on hésite pour savoir quelle est cette danse. Vous avez entendu comment les gens dire, mais ça danse comme ci, danse comme ça, et parfois, sur la même musique, vous voyez des danseurs, des gens différents. Je vous remercie.
Y a-t-il d'autres questions en rapport avec la première?
Est-ce que vous pourriez préciser ce que signifie la loi symbolique pour un petit qui n'a pas encore le pouvoir de raisonner? Comment, d'une façon concrète, parce que c'était un petit peu abstrait, je trouve. Pourtant, j'ai très bien compris, vous avez admirablement expliqué la parole sur le sens de l'étonnement, de l'absence-présence, mais là, je trouve que c'est un petit peu abstrait.
Monsieur Veil.
Oui. Monsieur Veil, je voudrais dire aussi pour la salle, je suis vraiment obligé de partir dans 5 minutes, mais je tiens à rester pour écouter vos 5 premières minutes.
Les dernières.
Bon, je prends pour première question la question de l'étonnement posée par Monsieur Prince. Ça permet, cette question est importante parce qu'elle permet de resituer la découverte de Freud, qui est généralement extrêmement mal comprise, en particulier l'interprétation qu'il a donnée des rêves. En général, ça traîne dans la vulgarisation de la psychanalyse, d'une certaine façon, dans la psychanalyse lisse Freud, certains psychanalystes, l'idée prévaut que les rêves auraient pour fonction la réalisation d'un désir sexuel insensible. Or, dire les choses ainsi, c'est passer à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vais essayer de vous dire. Un rêve, c'est toujours quelque chose qui est un message, et qui n'est pas qu'un message qui vient n'importe quand, c'est une réponse. Une réponse à quoi? Eh bien, c'est une réponse à une question qui a été posée au sujet, éventuellement le jour à la veille du rêve, à une question qui l'a laissé stupéfait. Quoi? Et tous dans la journée, je pense que chacun d'entre nous, dans une journée, on ne s'en rend même pas compte, on vit tellement d'incidents et d'événements dans une journée qui ne peuvent pas se compter, mais nous rencontrons des moments où une question dans toute sa force, qui est la question de l'autre, se pose à nous, et à laquelle nous ne répondons pas car nous sommes dans un état de stupeur ou d'étonnement qui font que nous restons sans réponse, et que nous sommes, comme on dit, l'esprit d'escalier, nous différons, nous laissons de côté. Or, le propre du sujet, c'est que nous sommes tellement... La dimension de la question est quelque chose de tellement précieux pour l'humain que pas possible de recevoir une question qui nous a étonnés ou qui nous a laissé quoi sans trouver le moyen d'y répondre d'une façon ou d'une autre, que cette façon soit juste ou fausse, mais d'y répondre. Et un rêve, c'est ça, c'est un mot d'esprit raté. Si nous avons la chance d'être un homme d'esprit, devant une question étonnante qui sidère le savoir et l'intelligence, nous répondons, comme on dit, du tac au tac par un mot d'esprit. Mais si nous sommes surpris et sidérés, comme ça peut arriver à chacun, le rêve, en fait, l'interprétation fondamentale de tout rêve, sans entrer en détail, c'est que c'est une reprise du point en nous qui est resté étonné et sans réponse, et le rêve, c'est la réponse différée qui survient quelques heures ou quelques jours ou quelques années ou quelques décennies plus tard, la réponse à cette question qui est restée sans réponse, la question fondamentale, d'une façon ou d'une autre, c'est toujours « Es-tu justifié d'être ?» Cette question se ramène toujours plus ou moins à ça. C'est-à-dire une question sur... non pas sur la justification de l'être, et effectivement, alors le sexuel intervient dans le rêve, mais le sexuel n'est pas le but du rêve, le sexuel intervient dans le rêve pour autant que c'est un moyen de répondre, car avec les fantasmes sexuels, on se débrouille pour répondre à cette question, et on y répond en général en faisant survenir cette idole qu'est l'objet sexuel, qui a pour fonction de boucher le trou de la question qui a ouvert un espace troué. Et la vraie, c'est-à-dire que c'est qu'une question qui crée un tel trou implique que le sujet puisse se hisser au niveau de la question. Et quand nous ne sommes pas des surhommes à tout moment, quand nous n'arrivons pas à nous hisser au niveau de ce qui radicalement stupéfie ou étonne, nous utilisons le fantasme sexuel en tant que, je dirais, bouche-trou. Et c'est là où nous sommes idolâtres, c'est quand nous rêvons.
Je peux vous poser une petite question là-dessus. Et est-ce que, donc, il ne serait pas tellement fou de dire que si le sexuel va jouer un tel rôle symbolique dans le rêve, c'est parce qu'il est, vous venez de dire, un substitut, mais un véhicule possible de l'altérité qui est cherché.
Je dirais que à la question de l'altérité posée par la question fondamentale, qui étonne, dans le rêve, je dirais qu'il y a un déplacement et que est substitué à la dimension de l'autre transcendant un petit autre. Il y a un déplacement d'altérité qui est un petit autre qui serait le petit autre du partenaire sexuel.
Merci. Bien, je vous dis à demain, mais vous restez.
Bien. Y a-t-il... Oui.
Oui, j'essaie de répondre, madame, à votre question sur ce qu'on pourrait dire de ce que cette loi symbolique faussée. Il y a une observation, je vais commencer par une un peu caricaturale, dans la littérature psychanalytique, il y a une observation célèbre, qui est l'observation du président Schreber, qui est le fou le plus célèbre de l'histoire de la psychanalyse. Et Freud a fait l'analyse de la psychose à travers le document écrit par le président Schreber, qui avait un délire schizophrénique extrêmement impressionnant. Ce que Freud n'a pas eu entre les mains, c'est dommage, il n'a pas eu les textes écrits par le père de Schreber. Le père de Schreber était un éducateur célèbre à son époque, qui avait pensé toute l'éducation allemande, qui a d'ailleurs été repris quelques années après par la pensée allemande national-socialiste, qui est une pensée où il s'agit de dresser l'enfant, c'est-à-dire une pensée où l'éducateur se fait un dresseur, le dressage allant même jusqu'au point que l'enfant doit être contenu et dressé à un tel point qu'il a même mis au point des appareils, des ustensiles pour que l'enfant se tienne bien, par exemple totalement droit à table. Alors des appareils le contenant des barres de fer dans le dos. C'est un exemple un peu caricatural, mais qui donne l'idée de ce que peut produire de ravageant chez un sujet quand, par ses ascendants, la loi lui est transmise d'une façon non symbolique, ou une perversion de la dimension symbolique. Ça, c'est un cas caricatural. Mais il y a des cas, la clinique nous montre des choses beaucoup plus nuancées. C'est-à-dire que des cas où les ascendants, en toute bonne foi, se conduisent avec leurs descendants, avec leurs enfants, avec souvent sous le visage de l'amour le plus grand, mais ça n'empêche pas qu'il y ait une transmission de la loi qui est faussée, qui est mensongère, à l'insu des parents. Et chose énigmatique, c'est d'où vient le don, l'attitude qu'a le tout petit de savoir, sans qu'on lui ait appris, ça ne s'apprend pas, qu'il y a une perversion de la loi quand elle lui est transmise, et ce savoir se manifeste par le fait qu'il répond en général un non, je ne marche pas, je ne réponds pas, et il fait un symptôme. Je donnais par exemple l'exemple de l'anorexie. En général, quand un enfant est anorexique, ça renvoie toujours au fait que la façon, le rapport de la personne qui donne la nourriture est un rapport de don non symbolique. La nourriture étant vécue par exemple, si c'est la mère qui est nourricière, étant vécue comme quelque chose qui doit gonfler l'enfant, le remplir. Comme s'il n'était pas un être de parole, mais un être qu'il faut avant tout nourrir et remplir. Et là, vous avez un autre exemple de ce qu'est la perversion de la loi symbolique en tant qu'elle est quelque chose qui doit organiser un certain don symbolique. C'est-à-dire que ce qui est donné, c'est pas la nourriture d'un point de vue matériel, c'est le sens spirituel de la nourriture, ce qu'elle a de symbolique. Et ça, c'est la dimension de la loi symbolique, qui peut être pervertie. Et chose étonnante, c'est que le petit humain est capable de signaler au donneur « tu donnes mal ». Je dis non. garde ta nourriture. Et dès le nourrisson, il est capable de cette réponse.
Oui, monsieur, s'il vous plaît.
Vous avez parlé de la sincérité dans le langage, mais pas dans le pas du mot mensonge. Le mensonge n'existe pas.
Je n'ai pas employé, mais je pourrais employer. Le mot mensonge existe. Le problème, c'est qu'il est possible qu'un être mente sans le savoir. Je prends un exemple parmi beaucoup d'autres. Comment devons-nous comprendre, par exemple, qu'un disciple, je prends l'exemple de Freud et ses élèves, comment devons-nous comprendre qu'un disciple de Freud, qui à une époque de son parcours historique rencontrant Freud, donne son assentiment à la psychanalyse, à la découverte de Freud? Comment devons-nous comprendre le sens de cet assentiment qui va jusqu'au point que ce disciple s'engage dans la psychanalyse, devient un psychanalyste et un grand psychanalyste, par rapport au fait que 20 ans après, quand il écrit un livre, c'est le cas d'un psychanalyste que je pense qui est Hartmann, qui a fondé une nouvelle psychanalyse aux États-Unis, comment devons-nous comprendre que quand 20 ans après, cet analyste reformule la psychanalyse, il la reformule dans une façon qui dédie totalement l'acquiescement premier qu'il avait donné à la psychanalyse. Et qu'il reformule une psychanalyse qui oublie radicalement, qui laisse tomber l'essentiel de l'apport freudien. Alors, est-ce que ça veut dire que quand le sujet sincèrement pensait dire oui, que déjà il disait non sans le savoir ? C'est une question sur laquelle je ne trancherai pas, mais c'est une question qui montre à quel point la dimension du mensonge est quelque chose de complexe. Qu'il est possible que ce sujet, en toute bonne foi, disait oui, et qu'il ne savait peut-être pas que, au fond de lui, il disait non. Déjà.
Je pensais au révisionnisme.
Ça, c'est autre chose.
La fausse vérité.
Ça, c'est le mensonge. À mon avis, c'est pas ce que j'ai appelé l'oubli de l'autre, mais ça serait plutôt du côté du désaveu de l'autre. C'est-à-dire que c'est un autre rapport de négation de l'autre. C'est un autre type de mensonge. C'est un mensonge, mais je crois que le mot mensonge n'est pas très bon parce qu'il y a tellement de façons différentes de mentir. Que c'est peut-être parfois dans le cas du révisionniste appauvrir le sens de son mensonge simplement de dire qu'il ment. Parce qu'évidemment il ment, mais il faut dire en quoi consiste le mensonge. Est-ce du cynisme? Est-ce qu'il sait la vérité et qu'il ne veut pas l'avouer? Ou est-ce qu'il est convaincu par ce qu'il dit? Alors, si c'est la vérité et qu'il ne peut pas l'avouer, c'est le mensonge le plus simple, mensonge conscient. S'il est convaincu de ce qu'il dit, c'est un mensonge beaucoup plus complexe, qui pose la question de la responsabilité d'un mensonge qui ne se connaît pas lui-même. Alors ça pose une question redoutable, c'est est-on responsable de ce qui se passe en nous inconsciemment ? Quelqu'un comme Sartre, c'est là-dessus que quelqu'un comme Sartre a quitté la psychanalyse, prétendant que la liberté humaine, c'est qu'en acte et conscience, on choisit, et que s'il y a des processus inconscients, c'est qu'il n'y a pas de liberté humaine. Or, toute la question la plus forte et profonde que pose la psychanalyse, c'est qu'elle pose la question de la liberté, mais en d'autres termes. En d'autres termes, c'est-à-dire que comment penser la liberté? Comment penser que le sujet de l'inconscient a un rapport avec le libre arbitre, c'est-à-dire avec la vérité et le choix, un rapport avec le libre arbitre, alors qu'il ne pense pas consciemment?
Merci.
Encore des questions dans la salle, mademoiselle, s'il vous plaît.
Pour les enfants qui disent non à ce qu'on dit, c'est quelque chose qui peut être très... Là encore, il y a différents non. Mais il y a un certain type de non qui est très positif. C'est-à-dire qu'il y a, pour l'enfant, à un moment de sa vie, c'est tout à fait vital qu'il découvre le fait qu'il puisse dire non à l'autre. C'est-à-dire, découvrant par la première découverte de la liberté, c'est-à-dire qu'il découvre que même un être aussi puissant que sa mère, il peut lui mettre des limites. Il lui dit non. Quoi qu'il dise, il lui dit non. C'est-à-dire qu'en lui disant non, ce qu'il fait surtout, c'est qu'il affirme sa possibilité de dire ça. Il dit « je parle ». Et donc c'est quelque chose qui est à respecter, pour autant que c'est une parole, à respecter si c'est dans le sens effectivement de la progression d'un enfant, si ça n'est pas un symptôme, comme l'anorexie dont je parlais, qui est aussi un non, mais un non silencieux. Quand le non dans l'anorexie est silencieux, est un acte, c'est différent d'un non qui se parle, qui dit non. Alors ce non dont vous parlez, il peut être quelque chose d'éminemment positif. Ça dépend le sens qu'il a pour l'enfant et pour la mère.
Oui, monsieur le rabbin Getch.
Quand vous parliez tout à l'heure d'expliquer dans la réponse pédagogique, l'articulation entre la liberté et l'inconscient. Je vais expliquer, mais vous n'avez pas terminé votre explication, vous n'avez pas entendu. Ça m'intéresserait d'entendre comment ces deux choses s'articulent. En contradiction avec ça, qui est refus, c'est inconscient de la mesure où ça remet en question la liberté absolue. Ça m'intéresse d'autant plus que je me souviens d'un texte du Gaon de Vilna qui a l'air de parler de l'inconscient, le problème est que c'est même plus d'inconscient, il parle du ratson arishon, d'une volonté première, primordiale, primaire, qui n'est pas formulée correctement, et il dit, il semble que l'accomplissement des mitzvot ou l'investissement dans la Torah, puisse influer rétroactivement, rétroactivement, sur ce ratio d'ambition, c'est-à-dire que il peut y avoir les résultantes de la liberté consciente ont des retombées sur le sujet inconscient. Et enfin, c'est une lecture que j'ai de ce vidéo. Je voudrais savoir ce que vous dites au sujet.
Bon, moi, c'est une question sur laquelle je suis en train de travailler, une question de la liberté, d'un point de vue analytique, mais ce n'est pas une question qui retient les analystes. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, je peux en parler un peu. Disons, c'est pas la question de la liberté, c'est un peu une question taboue pour les analystes, c'est-à-dire que c'est tellement difficile à penser que, disons, il n'y a pas de théorie analytique sur la liberté. Moi, le biais par lequel j'ai été sensibilisé à cette question, c'est en travaillant avec quelques amis théologiens, juifs et chrétiens, les épîtres de saint Paul, où, par la négative, il pose la question, je dis bien par la négative, il pose la question du non-libre-arbitre. C'est en lisant ces textes que je me suis rendu compte que m'est apparue la signification du libre-arbitre dans, effectivement, la pratique politique. Alors, bon, je peux revenir très rapidement à l'exemple que je donnais de l'anorexie. Un enfant fait un symptôme, dit non. Eh bien, peut-on dire qu'au moment où le don de la nourriture lui est fait d'une façon falsifiée. Il interprète cette falsification et il a le don de pouvoir l'interpréter et porter un jugement qui lui fait dire non. C'est une pensée qui n'est pas encore comme la pensée consciente, c'est-à-dire une pensée qui agit immédiatement, c'est-à-dire une pensée qui ne pense pas qu'elle pense, mais qui immédiatement se transforme en acte, l'acte du non. Alors, est-ce que, parce que cette pensée ne pense, ça serait le point de vue sartrien, est-ce que parce que cette pensée ne pense pas au moment où elle dit non, je dis non parce que je suis libre, que ce n'est pas de la liberté. Vous voyez, alors Sartre, ça c'est la position de Sartre. Je pense que quand un sujet, pour ma part, a le pouvoir de faire un acte de liberté sans penser que c'est de la liberté, ça n'empêche pas que c'est un acte libre. Ce n'est pas la peine de penser liberté pour qu'il y ait un acte de liberté. Ça serait ma position, s'il vous plaît.
Je voudrais vous donner lecture des prochaines communications. Demain, à 20h30, communication de M. Léon Ashkenazi, l'unité humaine et la diaspora des langages. Mercredi 31 mai à 20h30, communication du révérend Père Bernard Dupuis sur la confusion des langues et les regards de l'exégèse chrétienne de la Bible, avec comme discutant M. Léon Ashkenazi, et sous la présidence de M. le docteur Michel France. Et jeudi 1er juin à 19h, c'est donc exceptionnellement à 19h, la communication des clôtures par M. Henri Méchonic, traduction et confusion des langues, la problématique de la traduction et le génie spécifique de l'hébreu, sous la présidence du professeur David Mendelssohn. Et les cours sur texte, je crois que vous le savez tous, donc lundi, mardi et mercredi à 18h, jeudi et vendredi à 10h30, toujours sur le thème « La famille d'Abraham et la nation d'Israël ». Je vous donne donc rendez-vous à demain et j'espère que vous serez encore plus nombreux demain parmi nous. Merci.